VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du mercredi 12 juillet 2017, en direct de Washington. Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Tout d'abord, les titres.
En République démocratique du Congo, le rassemblement de Félix Tshisekedi veut une transition de 6 mois sans Kabila en l'absence d'élections à la fin de 2017.
L'opposition tchadienne a dénoncé mardi le soutien des Occidentaux au régime du président Idriss Déby Itno.
En République centrafricaine, des affrontements entre Peul et Antibalaka ont fait des morts et des milliers de déplacés dans le sud-est du pays.
Le président Donald Trump prolonge de 3 mois la période probatoire sur une éventuelle levée totale des sanctions contre le Soudan.
Et puis intensification de la controverse sur la tentative de Donald Trump Jr., fils aîné du président américain, d'obtenir des informations russes préjudiciables à Hillary Clinton.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Écho pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, la principale coalition d'opposition préconise une transition de 6 mois sans Joseph Kabila s'il n'y a pas d'élection d'ici au 31 décembre. Le point avec Ekia Badou.
Félix Tshisekedi, leader de l'UDPS soutenu par le Rassemblement, a indiqué qu'il sera désigné un président de transition pour 6 mois maximum. Cette personnalité ne pourra en aucun cas être candidat. Vendredi à Paris, le président de la commission électorale a indiqué que les élections ne pourront pas se tenir avant la fin de l'année, comme prévu par les accords de la Saint-Sylvestre. Monsieur Tshisekedi a estimé que Corneille Nangaa a déclaré la guerre au peuple et prouve sa partialité. La constitution interdit au président Joseph Kabila de se représenter, mais il est resté au pouvoir à la fin de son second et dernier mandat. Les États-Unis menacent de prendre de nouvelles sanctions si les élections n'ont pas lieu comme prévu cette année. Washington exhorte le Conseil de sécurité à punir les responsables des violences en République démocratique du Congo.
En Centrafrique, l'ONU fait état d'au moins 6 morts et de milliers de déplacés suite à des affrontements entre groupes armés à Zemio dans le sud-est du pays. Eric Manirakiza.
Ces affrontements opposent depuis 2 semaines des Peuls à des Antibalaka. Le 28 juin, des hommes armés non identifiés ont pillé et brûlé des boutiques et des maisons dans la ville de Zemio, sur la frontière avec la RDC. D'après l'ONU, les violences ont continué jusqu'à vendredi dernier. Les premières estimations indiquent que près de 20 000 personnes sont déplacées sur au moins 5 sites. Le nombre total de personnes tuées n'est pas encore disponible, faute d'accès dans la ville où l'insécurité est quotidienne. L'ONU confirme seulement l'enterrement de 6 corps dans une fosse commune. La force onusienne effectue des patrouilles robustes sur les principales voies de la ville de Zemio et ses environs. La situation sécuritaire à Bria, au centre du pays, demeure également préoccupante, où 100 de personnes sont mortes. En revanche, une accalmie relative est observée depuis quelques jours à Bangassou, théâtre de massacre à la mi-mai qui avait relancé une nouvelle spirale de violence en Centrafrique.
L'opposition tchadienne a dénoncé mardi le soutien des Occidentaux au régime du président Idriss Déby Itno dans une lettre ouverte à plusieurs ambassades occidentales reçues par l'AFP. La branche jeunesse du principal parti d'opposition de l'Union nationale pour le développement et le renouveau, membre de l'Internationale socialiste depuis mars, interpelle la France, les États-Unis, l'Allemagne, la Suisse et l'Union européenne au sujet du soutien qu'ils apportent, je cite, à un président illégal et illégitime, Idriss Déby Itno.
Le peuple tchadien est pris en otage sous l'œil acolyte de la France et compagnie, ajoute le texte. Partenaire stratégique de la France et de l'Occident dans la lutte contre le djihadisme au Sahel, le Tchad, l'un des pays les plus pauvres du monde, traverse une crise économique aggravée par la baisse des cours du pétrole en 2014. Le Tchad a connu plusieurs grèves ainsi qu'une augmentation des arrestations d'opposants depuis 1 an, selon l'ONG Amnesty International.
Soudan, le président des États-Unis, Donald Trump, a prolongé de 3 mois la période probatoire décidée par son prédécesseur, Barack Obama, avant une éventuelle levée totale des sanctions économiques frappant le Soudan. L'annonce en a été faite mardi soir par le département d'État, Jean-Roger Bion.
Par un décret présidentiel, M. Trump a prolongé cette période de 3 mois supplémentaires, soit jusqu'au 12 octobre, a indiqué dans un communiqué la porte-parole de la diplomatie américaine, Heather Nauert. Les sanctions seront définitivement révoquées si le gouvernement soudanais poursuit ses actions positives, a-t-elle fait valoir. Washington a, à l'égard de Khartoum, des exigences en 5 points, la fin du soutien aux groupes rebelles au Soudan du Sud, la fin des hostilités dans les provinces du Darfour, du Nil Bleu et du Kordofan Sud, et une coopération avec le renseignement américain contre le terrorisme. Les sanctions économiques contre le Soudan avaient été imposées en 1997 pour son soutien présumé aux islamistes dont le chef d'Al-Qaïda Oussama Ben Laden, tué dans un raid américain au Pakistan en mai 2011. Dans les derniers jours de sa présidence, le 13 janvier dernier, M. Obama avait levé certaines sanctions frappant Khartoum depuis 20 ans, mais avec une période probatoire de 6 mois avant une possible suppression complète de ces mesures punitives. Cette période s'est achevée ce mercredi.
Les agences humanitaires se félicitent de la promesse de l'administration Trump de fournir 640 millions de dollars pour aider 4 pays à faire face à une insécurité alimentaire croissante, mais elles soulignent que la promesse aurait dû être faite plus tôt et que l'aide prendra trop de temps pour atteindre les gens qui en ont un besoin désespéré. C'est ce qu'a dit à la Voix de l'Amérique Noah Gottschalk d'Oxfam américain. Le président Donald Trump a annoncé cet engagement au récent sommet du G20 à Hambourg, en Allemagne, soit plusieurs semaines après que le Congrès a approuvé les fonds pour le Nigeria, le Soudan du Sud, la Somalie et le Yémen.
Washington, la Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le fils aîné du président Donald Trump a admis hier avoir volontairement rencontré une avocate présentée comme une émissaire du gouvernement russe, prête à fournir au candidat républicain des informations compromettantes sur Hillary Clinton. Le point avec John Lindon.
Un extraordinaire rebondissement dans l'affaire qui empoisonne le mandat du président américain. Son fils Donald Trump Jr., 39 ans, a publié sur Twitter 4 pages de messages échangés en juin 2016 avec un intermédiaire britannique. Le New York Times venait de promettre leur divulgation imminente. Donald Trump Jr. a été contacté par Rob Goldstone, un agent représentant le chanteur russe Emin Agalarov. Rob Goldstone informe le fils de Trump que le procureur général de Russie a proposé à Arras, le père du chanteur, de donner à la campagne Trump des informations et documents officiels qui pourrait incriminer Hillary et ses transactions avec la Russie. « Si ce que vous dites est vrai, j'adore l'idée », a répondu Donald Trump Jr. et plusieurs échanges ont suivi. Le vice-président Mike Pence a pris ses distances avec le fils de Donald Trump, qui de son côté a salué la transparence de son fils aîné. Depuis, la presse américaine en fait les choux gras.
Et en pleine tempête politique aux États-Unis sur l'ingérence présumée de Moscou dans la présidentielle américaine, de hauts diplomates des deux pays se retrouveront le 17 juillet à Washington pour mettre sur la table leurs multiples contentieux, a indiqué mardi la diplomatie américaine. Le numéro 3 du département d'État, le diplomate de carrière Thomas Shannon, accueillera le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergei Ryabkov, une rencontre programmée fin juin à Saint-Pétersbourg, mais que Moscou avait annulée en raison de nouvelles sanctions américaines liées au conflit en Ukraine.
Le commandant des forces de la coalition en Irak espère que le leader du groupe État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, est bien mort, mais qu'il soit mort ou non, avertit le général Stephen Townsend, la lutte pour reprendre tous les territoires irakiens pris par les djihadistes est loin d'être terminée. Le général a souligné n'avoir aucune idée de ce qu'il est advenu d'al-Baghdadi, ajoutant que s'il est mort, cela signifie que quelqu'un d'autre dirige l'organisation et qu'ils essaient de ne rien dire sur son sort pour ne pas affecter le moral des troupes.
Il y a eu ces dernières semaines beaucoup d'informations faisant état de la mort d'al-Baghdadi, dont certaines émanant de revendications russes, syriennes et iraniennes. Et hier, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, basé à Londres, a dit avoir des informations confirmant la mort du leader du groupe État islamique, tout en précisant qu'il ne savait pas où et quand il est décédé. Al-Baghdadi, 46 ans, n'a pas été vu en public depuis 2014, lorsqu'il avait proclamé, lors d'une apparition à la mosquée Al-Nouri de Mossoul, son califat sur l'ensemble des terres conquises par son organisation en Irak et en Syrie.
La police turque a tué mercredi 5 membres présumés du groupe État islamique lors d'une opération contre une cellule djihadiste à Konya, dans le centre de la Turquie, ont indiqué les autorités locales. Et puis 2 Palestiniens ont été tués mercredi par des balles tirées par l'armée israélienne lors d'affrontements dans le camp de réfugiés de Jenin, dans le nord de la Cisjordanie occupée, selon des sources palestiniennes. Pour sa part, l'armée israélienne a déclaré que des soldats avaient ouvert le feu sur des assaillants palestiniens armés qui ont tiré et lancé des engins explosif sur les soldats opérant dans le camp.
Crise dans le golfe Persique, première victoire en principe de la diplomatie tranquille entreprise par le secrétaire d'État américain Rex Tillerson pour trouver une solution au blocus du Qatar par ses voisins, blocus qui dure depuis un mois. Avec son homologue qatari, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, à ses côtés, M. Tillerson a annoncé la signature d'un mémorandum avec Doha sur les mesures à prendre pour stopper le financement du terrorisme. Le chef de la diplomatie américaine a dit être animé par le même esprit qui a conduit le président Donald Trump à Riyad en mai dernier, à savoir que les États-Unis ont un objectif, effacer le terrorisme de la face du monde. M. Tillerson a fait la navette entre Kuwait City et Doha hier et doit se rendre aujourd'hui à Jeddah en Arabie Saoudite pour y rencontrer des responsables du royaume wahhabite. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Éco, Jacques Aristide.
Les investisseurs sont optimistes quant aux perspectives économiques africaines. D'après une étude du groupe de conseil Havas Horizon sur le financement de la croissance africaine, certains pays sont davantage plébiscités que d'autres à l'horizon 2020. Le top 5, Éthiopie, Nigeria, Maroc, Ghana et Sénégal, est équitablement réparti entre Afrique de l'Est et Afrique de l'Ouest, ainsi qu'entre les zones anglophones et francophones. C'est le secteur de l'énergie qui attire les investisseurs, considérés comme étant le plus prometteur. L'Afrique a les moyens de financer son développement, c'est l'avis de Babacar Cissé, coordonnateur du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Il intervenait lors d'une réunion récemment à Abidjan sur le dividende démographique et l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Nous comptons trop souvent sur l'extérieur, il faut qu'on sorte de cette logique-là, a-t-il ajouté. Le Nigeria ne doit pas emprunter davantage pour financer son budget et devrait plutôt mobiliser des fonds dont il a besoin par d'autres moyens, selon la ministre nigériane des Finances. Kemi Adeyemi a remis en question le prêt de 2 milliards de dollars à des bailleurs de fonds, dont la Banque mondiale, pour sortir la plus grande économie d'Afrique de la récession.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Fini la France pour Ahmed Doumbia.
Tout à fait Idrissa, après 3 saisons, le milieu de terrain malien quitte Toulouse pour la Croatie. Il s'est engagé en faveur du Dynamo Zagreb pour les 3 prochaines années. Le club de la Ville Rose devrait récupérer près d'un million d'euros dans la transaction.
Steve Mandanda revient à l'Olympique de Marseille.
Oui, le gardien Steve Mandanda, 32 ans, revient avec un contrat de 3 saisons à Marseille, après une année à Crystal Palace. Steve Mandanda a joué 441 matchs en 9 saisons sous le maillot de l'OM. À Londres, il n'a joué que 10 matchs en une saison.
Nouveau rebondissement dans l'histoire de la sextape entre Valbuena et Benzema.
Effectivement, la Cour de cassation française a donné raison à l'attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, dans l'affaire de la tentative de chantage à la sextape contre Mathieu Valbuena, dans laquelle il est mis en examen. La défense de Benzema avait mis en cause la loyauté de l'intervention dans l'enquête d'un policier qui s'était fait passer pour un émissaire de Mathieu Valbuena. Cette décision ouvre la voie à l'annulation de la procédure. La Cour d'appel de Paris a été désignée par la Cour de cassation pour juger cette affaire de nouveau.
Le cœur d'Abdelhak Nouri fonctionne normalement.
Oui, victime d'un malaise cardiaque en match amical samedi, le milieu de terrain néerlandais d'origine marocaine, Abdelhak Nouri, se remet doucement. Il est cependant trop tôt pour dire quoi que ce soit sur sa totale récupération, a laissé entendre son club, l'Ajax d'Amsterdam. Des examens complémentaires s'imposent. Nouri, 20 ans, s'est écroulé pendant un match de pré-saison face au Werder Bremen en Autriche.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, le gouvernement du président Idriss Déby Itno a revu à la baisse les salaires et indemnités de ses soldats et généraux dans le cadre des mesures d'austérité qu'il prend pour redresser l'économie nationale. Un décret a été signé à cet effet le 3 juillet dernier. De N'Djamena, notre correspondant André Kotmadjingar fait le point.
Après le gel de salaire et indemnité des fonctionnaires civils et ceux de la police nationale, c'est le tour des militaires, tous grades confondus, de subir les mêmes conséquences de la crise économique et financière que traverse le pays. Désormais, les officiers supérieurs de l'armée tchadienne qui gagnaient 800 000 francs CFA pendant la période de vache grasse, comme l'a si bien affirmé le président de la République Idriss Déby Itno, chutent en flèche. Ils doivent dorénavant se contenter de 360 000 francs CFA et un soldat chute de 50 000 à 34 000 francs CFA. Au cours d'un débat ce lundi à l'Assemblée nationale sur le projet de loi rectificatif à la loi des finances 2017, les députés n'ont pas été tendres avec le gouvernement. Le député Nouradine Deloua Kassiré Koumako y s'érige en véritable défenseur des militaires.
Ne prenez pas un centime de l'argent des militaires. Vous allez nous créer encore les problèmes de coupeurs de route. C'est eux qui assurent la garantie de l'État. Ne les provoquez pas. Les détournements des deniers publics, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le plus simple, c'est de mettre les gens compétents, de bien les payer pour qu'ils ne soient pas tenter. Mais ne commencez pas par ceux qui assurent votre sécurité et qui peuvent vous provoquer des troubles.
Tout comme le général de division Rotun Yuma Golom aujourd'hui, président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, qui a fait observer que le gouvernement est en train de jouer avec le feu.
Ces militaires ont des charges. Ils louent, ils se soignent. On ne peut pas jouer avec le feu. Je trouve qu'il n'y a pas un sens humain dans cette décision. Pourquoi le Premier ministre qui décide de réduire à gauche et à droite maintient son fonds de souveraineté?
Évariste Ngarlem-Toldé, politologue et ancien chercheur à l'université de N'Djamena, estime qu'il est normal que les militaires contribuent au redressement de l'économie nationale, même si cette mesure peut être source d'insécurité.
C'est vrai, ils veillent nuit et jour sur la sécurité des biens et des personnes, mais toujours est-il qu'ils ne sont pas des fonctionnaires différents des autres. Et on estime qu'en tant que fonctionnaires, les militaires doivent également subir les conséquences de cette crise financière qui touche le pays. Maintenant, est-ce que ce décret aura des conséquences sur le plan sécuritaire? Cela va sans dire. Simplement parce que, habitués à des facilités financières qui n'est un secret pour personne, aujourd'hui, ils vont être réduits, je ne dirais pas la mendicité. Donc les conséquences sécuritaires sont inévitables.
Les victimes elles-mêmes murmurent dans les coulisses, mais tenues par une obligation de réserve, elles n'ont pas encore jusque-là réagi officiellement. Mais pour le commun des mortels, le pire est à craindre. André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
En République démocratique du Congo, l'opposition dirigée par Félix Tshisekedi suggère une transition de 6 mois sans le président Joseph Kabila. Elle réagissait ainsi à l'annonce du président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, sur l'impossibilité de tenir les élections avant la fin de 2017. Pour une analyse, Eddy Issango a joint le président du Conseil congolais pour la paix et la justice, Fidèle Lumeya.
Quand ils viennent pour dire qu'il faut une transition, c'est qu'ils donnent raison à Nangaa de dire, écoutez, s'ils doivent penser à transition, ils doivent se rendre compte, mais ils doivent nous dire, est-ce que l'UDPS a ses montants, l'UDPS a des représentants, pas seulement l'UDPS, mais tous les autres partis. Si Katumbi seulement n'a pas 100 millions de dollars dans ses assets, parce que c'est le plus riche selon les statistiques, mais nos calculs montrent que non, il n'a que 60 millions de dollars. C'est ça qu'il fait un millionnaire. Mais il lui faut préparer, il n'a pas un parti politique qui est représenté jusque dans les villages. Sinon, nous n'aurons jamais, avec 180 millions de dollars, 26 provinces et X nombre de territoires, X nombre de villes, X nombre de communes, X nombre de quartiers. Personne au Congo ne peut se prévaloir d'organiser les élections. Et surtout quand il nous reste 172 jours seulement.
Mais il y a quand même eu des élections dans le passé, dans le pays, et dans les conditions quasi similaires.
Oui, 2006, moi j'étais au Congo en tant que consultant. on était engagé par USAID pour étudier la capacité de l'opposition de se représenter. C'était nul. J'ai fait le Bandundu, Kinshasa, Bandundu, jusqu'au dans le Kassai. Et puis, il y a eu une autre équipe qui est partie à l'est du Congo. Nous sommes rentrés avec les mêmes conclusions.
Il y a eu un dialogue qui s'est tenu. Il y a eu d'autres négociations. On a cru trouver une solution pour la RDC, mais aujourd'hui, là, il n'y a pas une perspective pour des élections. Où voyez-vous le Congo aller? Dans quelle direction?
La réalité est que après le 31 décembre, nous allons vers un vide politique, un vide juridique. Vous ne venez pas organiser les élections dans 2 ans. C'est impossible parce que la logistique vous coûte trop cher et la maîtrise des données. Donc, le problème du Congo, c'est celle-là. Les gens veulent les négociations, les dialogues, parce que c'est simple. Mais nous n'élisons pas les gens pour ce qui est simple. Nous les élisons pour aller résoudre ce qui est complexe. Or, quand on arrive à des problèmes très complexes, les Congolais politiciens ont tendance de recourir à la rue. Vous écoutez cela, nous allons appeler la rue. Mais appeler la rue et après, quand on casse tout, vous perdez l'économie. Pour le moment, si on ose appeler à la rue, on prolonge le mandat du président de la République. Parce qu'il trouvera une raison de dire, écoutez, comme il y a un chaos, je ne peux pas laisser le pouvoir. Tout ce qui se passe au Kassai ne devrait pas se passer. Parce que toute analyse fidèle trouvera que le président Kabila regagne du poids de la bête. Pour le moment, nous devons rentrer encore au dialogue.
C'était Fidèle Lumea, président de l'ONG Conseil Congolais pour la paix et la justice, joint ici aux États-Unis.
VOA Afrique, 24h/24, à Kisangani, en RDC, sur 97.7 FM.
Au Burkina Faso, un rapport de la commission du Conseil supérieur de la magistrature met en cause 37 magistrats qui ont monnayé leurs services. Dans la foulée, les magistrats ont adopté un nouveau code de déontologie et d'éthique. Pour en savoir plus, Yacouba Ouédraogo a joint Victoria Ouédraogo Kibora, secrétaire permanente du Conseil supérieur de la magistrature.
Les 37 magistrats épinglés dans le rapport ne sont pas tous accusés d'avoir monnayé leur service au niveau de la justice, parce qu'il y a d'autres types d'infractions pour lesquelles ces personnes sont certainement poursuivies. Le rapport a été remis officiellement au Conseil supérieur de la magistrature parce que c'est lui qui a demandé et mis en place une commission chargée de mener l'enquête sur les manquements commis par les magistrats dans le cadre de leur service. Donc ce rapport est revenu naturellement au Conseil supérieur de la magistrature qui a décidé de la remise de copie au président du Faso en sa qualité de garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire et au ministre de la Justice.
Dans la foulée, vous vous êtes doté d'un nouveau code de déontologie. Qu'est-ce que cela va apporter de nouveau?
L'adoption de ce code de déontologie contribuera à restaurer la confiance du justiciable dans les décisions de la justice et de leur faire comprendre ou du moins de montrer la transparence des conditions qui guident le magistrat ou le juge dans sa prise de décision et puis de permettre au justiciable également de comprendre que même au sein de sa juridiction, le magistrat est tenu de certaines devoirs d'éthique et de déontologie dans la mission que lui a confiée la Constitution.
Une chose est d'adopter un code d'éthique et de déontologie, une autre chose est de le faire respecter. Pensez-vous en avoir les moyens?
Le caractère de ce code déjà, caractère contraignant, implique le fait que la violation des dispositions contenues là-dedans est passible de sanctions disciplinaires. Déjà, ça, il faut comprendre que c'est un caractère dissuasif. Et puis, en plus, cela permettra aux justiciables de savoir également les situations dans lesquelles le magistrat ne respecte pas sa déontologie, parce que ce code va être rendu public, va être mis à la disposition de tous, et permettra aux justiciables de se plaindre au cas où il estime que les dispositions du code de déontologie, qui sont désormais contraignantes, ont été violées par un magistrat en fonction.
Est-ce à dire que si un citoyen estime que le magistrat, peut-être en rendant une décision donnée, a violé ce code de déontologie et d'éthique, ce citoyen-là pourra poursuivre le magistrat?
Le justiciable a la possibilité de saisir le Conseil supérieur de la magistrature lorsqu'elle estime qu'elle a été violée dans ses droits par des attitudes qu'il a considérées comme étant des manquements de la part des magistrats.
Jointe au Burkina, Victoria Ouédraogo Kibora, secrétaire permanente du Conseil supérieur de la magistrature.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Sénégal, Human Rights Watch et des organisations locales, la plateforme pour la promotion et la protection des droits de l'homme, dénoncent l'insuffisance des efforts du gouvernement pour mettre fin à la mendicité forcée ainsi que l'absence de répression quand il s'agit des écoles coraniques qui envoient des enfants mendier dans les rues. Entre juin 2016 et mars 2017, près de 1550 enfants ont été retirés de la rue. Eric Manirakiza a joint à New York Jim Womington, chercheur à Human Rights Watch.
C'est bien d'éviter le mot échec parce que c'est une campagne qui a démontré la volonté du Sénégal de s'attaquer à ce problème de la mendicité des enfants. La campagne a beaucoup focalisé sur la nécessité d'une rééducation et une resocialisation des familles et des écoles coraniques qui sont à la base de ce problème de la mendicité forcée, mais a presque ignoré complètement l'aspect d'enquête, de poursuite et de sanction. Les maîtres coraniques, les écoles coraniques qui envoient les enfants talabis dans la rue pour les forcer à mendier, n'ont pas du tout été poursuivis ou sanctionnés pour le fait qu'ils exploitent les enfants dans cette façon. Et ce qu'on a vu, en fait, c'est quand il y a les abus physiques ou sexuels, les cas isolés, des poursuites contre les maîtres de ces écoles coraniques. Donc c'est pour nous l'essentiel défi qui reste pour le gouvernement du Sénégal. C'est d'assurer que l'approche actuelle soit combinée avec une approche de poursuite et de sanction.
Au-delà des sanctions, le retrait de ces enfants de la rue demande beaucoup de moyens. Est-ce que le gouvernement sénégalais en a les capacités requises?
D'abord, je ne suis pas trop sûr que ça nécessite beaucoup de moyens. Malheureusement, le fait que les maîtres coraniques n'ont pas vu qu'en réalité ils seraient sujets des enquêtes et des poursuites ont fait que, au fur et à mesure, la pratique s'est rétablie jusqu'à ce qu'on arrive à un moment maintenant où il est presque au même niveau qu'avant le début du programme.
Vous interpellez les futurs députés à mettre fin à cette situation. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement?
L'Assemblée nationale peut bien sûr jouer son rôle démocratique, de demander et d'exiger au gouvernement qu'il fasse une approche plus compréhensive, plus bien réfléchie que le gouvernement a fait pour la première année de ce programme. Et deuxièmement, s'il y a un soutien financier qui est nécessaire et si ça se manifeste par une loi pour réglementer les écoles coraniques, ce qu'on appelle les DARA, ce qui est aussi un aspect fondamental d'une stratégie contre ce programme, et de soutenir le passage de cette loi, mais seulement après l'Assemblée s'est assurée que tous les aspects nécessaires de la loi sont en place.
C'était Jim Womington, chercheur à Human Rights Watch, joint à New York.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Plein feu sur les législatives sénégalaises du 30 juillet. Un scrutin avec un nombre record de candidats alors que la diaspora sera représentée pour la première fois au Parlement. Comment se déroule la campagne? Les nombreuses candidatures risquent-elles de peser sur le déroulement du scrutin? Quid du retour de l'ancien président Wade? Que signifiera l'issue du vote pour la présidentielle de 2019? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOAAfrique en direct de Washington, voilà c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sédoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.